Les deux tiers de la faune sauvage ont disparu en moins de 50 ans dans le monde. L'activité humaine, principale responsable, répète ce
10,
matin.
10, 11,
ben Fred, 12, tu comptes les moutons ?
13.
Non,
les baleines !
Ah bon, t'arrives pas à dormir ?
Pas du tout. Aujourd'hui, il faut même ouvrir l'œil pour observer les baleines. Elles ont tellement été chassées dans le passé que leur nombre a considérablement diminué.
La pratique était interdite depuis plus de 30 ans. Mais le Japon vient de reprendre la chasse commerciale à la baleine.
En l'espace de 2 mois, une 9e carcasse de baleine grise s'est échouée dans la baie de Californie.
Un mammifère de 15 tonnes et d'une dizaine de mètres de long échoué sur la côte camarguaise. Chaque année, 1 à 3 baleines s'échouent sur les côtes de la Méditerranée.
Eh oui, le chant de la baleine. Depuis le début de l'année 2019, plus de 350 baleines grises ont été retrouvées mortes sur la côte pacifique de l'Amérique du Nord, du Mexique à l'Alaska. Des milliers d'autres auraient péri en mer, mais pourquoi donc? Les scientifiques traquent les causes de cette hécatombe et l'envoyé spécial du Monde à San Francisco et à Seattle, Nathaniel Esberg, a mené l'enquête. Bonjour Nathaniel Esberg.
Bonjour Caroline Brouet.
Merci beaucoup d'être venu ce matin. Vous êtes un amoureux des baleines?
Je le suis devenu. À vrai dire, je connaissais pas les baleines, je n'avais jamais vu de baleines avant de faire cette enquête. Et effectivement, une fois qu'on les a vues, c'est un peu difficile de décrocher.
Alors quand vous les connaissiez pas et comme vous n'étiez pas un amoureux, qu'est-ce qui vous a conduit à traiter ce sujet-là?
C'est une histoire un peu particulière. Il se trouve que je suis allé aux États-Unis en février dernier parce que j'y étais invité pour un prix que je devais recevoir. Et j'avais un petit peu mauvaise conscience d'aller de faire un tel trajet en avion alors qu'on écrit régulièrement l'importance de réduire l'ensemble des trajets qu'on peut faire. Voilà, et j'y allais pour recevoir une breloque et parler 2 minutes. Je me suis dit qu'il fallait quand même que je fasse autre chose, donc j'ai cherché des sujets.
Vous culpabilisiez, en fait.
Ouais, oui. Je dois reconnaître, c'est un peu futile parce que les causes, elles sont évidemment, comment on pourrait dire, d'une autre dimension. Mais je pense que chacun doit essayer de se poser quelques questions. En tout cas, on le fait au journal. Quand il y a des déplacements, on se pose la question maintenant, toujours. Et on ne répond pas toujours dans la même direction, mais voilà. Donc, j'ai décidé d'y aller. Et j'ai décidé de faire une enquête. J'ai cherché, enfin, à vrai dire plusieurs, mais j'ai cherché différents sujets. Et notamment, j'ai découvert à cette occasion que depuis un an, il y avait, ça faisait un an à ce moment-là, il y avait des dizaines, des centaines de baleines qui s'échouaient. La correspondante à San Francisco avait déjà fait un article l'été précédent, mais un article assez bref, excellent, mais il y avait d'autres choses à raconter. Voilà. Et donc, je suis allé effectivement faire une enquête.
Et en quoi la surmortalité des baleines grises au large des côtes pacifiques des États-Unis fait un bon sujet d'enquête? Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit, ah oui, je vais enquêter là-dessus?
Paradoxalement, ce que je trouvais intéressant, c'est le fait que les baleines grises se portent bien.
C'est pas une espèce menacée.
Se portaient bien. Ce n'est pas une espèce menacée. C'est une espèce qui a failli périr à la fin du 19e siècle, parce qu'elles étaient chassées en masse par les Américains dans au Mexique. Et puis à ce moment-là, il y en avait tellement peu que c'était plus rentable de chasser les baleines grises. Ils sont passés à d'autres baleines. Et puis ensuite, il y a eu des mesures de protection à la fin du XXe siècle. Et sa population est remontée jusqu'à 26 000 baleines en 2016, si mes souvenirs sont bons. Et donc, c'est une sorte de success story de la protection de l'environnement. Et on s'aperçoit, malgré ça, que d'un seul coup, il y a une hécatombe, et ça m'intéressait, d'essayer de comprendre comment ça pouvait avoir lieu. D'autant qu'en réalité, l'effondrement actuel de la faune sauvage, c'est souvent sur des espèces qui se portent bien. On parle des espèces qui disparaissent, et on a raison, parce que là, c'est irrémédiable.
La baleine franche de l'Atlantique Nord, voilà, par exemple, dans le rapport du WWF cette semaine.
Effectivement. Donc, il y a comme ça quelques cétacés qui pourraient disparaître dans les 10 ans à venir. Mais par ailleurs, la grande masse, et cette disparition, elle est silencieuse, parce que souvent, ce sont des animaux qui existent encore en grande quantité, et quand il en disparaît la moitié, on peut ne pas y prêter attention.
Mais votre article, Nathaniel Esberg, est surprenant dans la mesure où il occupe 2,5 pages du supplément Sciences et Médecine du Monde cette semaine, avec quand même un gros encart, comme un
petit deuxième sujet sur le retour des baleines à bosse à Hawaï. Comme si vous vous disiez, bon, j'ai parlé de la disparition des baleines grises d'un côté, mais il y a aussi le retour des baleines à bosse à Hawaï. Alors pourquoi ne pas avoir fait ce sujet-là en priorité? Pourquoi l'avoir organisé comme ça?
Bonne question. J'avoue que non, je pense que faut quand même être clair. La direction générale que nous prenons, elle est pas très encourageante. Et globalement, les animaux meurent. Et bon, c'est d'abord la vieille histoire des trains qui arrivent à l'heure ou pas à l'heure. On s'intéresse plutôt aux trains qui n'arrivent pas à l'heure. Mais là, le phénomène massif et dont qu'on a la responsabilité de décrire, c'est quand même le phénomène de la disparition des animaux. En revanche, il me semblait intéressant de dire que au même moment, il y avait aussi des animaux qui pouvaient se porter bien. Et je trouve que c'est encourageant de se dire que quand on conduit une politique de protection responsable, on peut réussir à sauver des animaux. Mais pas des animaux, des espèces. Et faire en sorte que ces animaux se portent véritablement mieux.
Vous diriez que la protection des baleines, c'est un cas d'école pour la protection des espèces?
Je pense que c'est une sorte de cas d'école parce que, tout à la fois parce que on voit qu'on peut faire des choses, on a réussi à faire des choses dans le passé, et par ailleurs parce qu'on s'aperçoit que malgré les mesures qu'on a prises, là, il se passe actuellement un phénomène massif qui est le changement climatique, et que ce phénomène-là, il peut avoir des conséquences. Et là, évidemment, l'intervention qu'on doit faire, c'est pas seulement interdire la chasse à la baleine. C'est quelque chose de bien plus macroscopique, si je peux dire.
Mais qu'est-ce qui ressort, Nathaniel Esberg, de cette enquête qui est titrée « Les baleines grises victimes du climat ». Le point d'interrogation est important, puisque quand on vous lit, on voit bien que les soupçons sont certains, mais qu'on n'en est pas si sûr, qu'il peut y avoir un faisceau de raisons. Et vous écrivez d'ailleurs, sur 50 baleines autopsiées, 29, soit plus de la moitié, présentaient des traces externes d'attaques d'orques et de collisions avec des navires. Donc là, c'est pas seulement le réchauffement climatique.
Ce n'est pas seulement le réchauffement climatique, probablement. Bon, d'abord, il y a un certain nombre de baleines qu'on retrouve émaciées, échouées, sans toxines, sans virus, sans marque de collision. Vraisemblablement, elles sont mortes d'épuisement. L'autre chose, c'est que les phénomènes, ils sont en chaîne. Une baleine qui est épuisée ou fatiguée parce qu'elle a pas pu trouver suffisamment de nourriture dans l'océan Arctique à cause du réchauffement, 6 mois plus tard, quand elle a 15 000 km aller-retour dans les nageoires et qu'elle a, entre-temps, elle a enfanté, elle a nourri son petit, quand elle va remonter vers le nord, elle sera moins attentive pour éviter les bateaux, elle sera moins attentive pour éviter les filins des filets de pêche, et elle sera sans doute plus fragilisée pour éventuellement attraper des maladies. Donc les choses sont enchevêtrées.
C'est ce que vous explique d'ailleurs une chercheuse de l'université de l'État de Washington, Sue Moore, puisque vous avez rencontré notamment des chercheurs, oui, des experts, des scientifiques, des gens qui travaillent de très près sur l'océan et en particulier sur ces mammifères marins.
Oui, bah ce sont des chercheurs qui ont consacré leur vie à ça. Hein. Souvent, ils ont 20, 30, 40 ans de travail sur les baleines derrière eux. Sue Moore, elle dit très clairement que elle ne pense pas que ça peut expliquer seul. C'est assez intrigant parce que il y a une première.
Vous êtes très prudent dans votre article.
Mais parce que on peut pas gérer la science.
Vous émettez des hypothèses, mais on est sûr de rien en fait.
Ils sont en train de refermer des portes. Ils ont fait des autopsies. Les autopsies sont très difficiles avec les baleines parce que elles sont faites pour vivre dans l'eau froide et dès qu'elles s'échouent, leur température monte et elles explosent, elles fondent de l'intérieur et elles finissent par exploser. Mais de toute façon, les organes, en 2 jours, ils sont inexploitables. Donc on a beaucoup de mal à traquer les éventuelles maladies qu'elles ont. Donc les chercheurs, ils essayent de refermer des portes et de comprendre ce qui se passe. Donc il y a une porte qui n'est pas du tout refermée, elle est même pour le moment grande ouverte, c'est celle effectivement du manque d'alimentation dû au réchauffement climatique.
De la carence alimentaire.
Voilà, cette carence alimentaire. Et même ça, c'est assez intéressant, parce que la carence alimentaire, c'est contre-intuitif. Logiquement, quand la glace fond, ça devrait ouvrir des zones de nourriture aux baleines. Sauf qu'on s'aperçoit que les endroits où elles ont la nourriture la plus riche sont proches de la glace. Et par ailleurs, ce sont des animaux d'habitude qui retournent chaque année dans les mêmes endroits. Et lorsque leur zone se déplace, et surtout quand elles se déplacent plus au nord, elles dépensent de l'énergie pour chercher, elles dépensent de l'énergie pour monter encore plus au nord, puis pour descendre au sud, au Mexique, qui est l'endroit où elles se reproduisent. Et donc, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, cette fonte des glaces, elle conduit à les fatiguer et finalement, potentiellement, possiblement, à les tuer.
Au conditionnel. Voilà. Nathaniel Heisberg, il se trouve que notre invité de la deuxième heure, le philosophe Dominique Bourg, est passionné par ces questions, qu'il a lu votre enquête et qu'il a envie d'intervenir puisqu'il est déjà avec nous, Dominique Bourg. Bonjour.
Oui, bonjour. Oui, j'ai envie d'intervenir parce que cette étude est passionnante. Et je voudrais surtout insister sur le fait que, si vous voulez, les papiers scientifiques, c'est une chose, mais quand un excellent journaliste prend un sujet, d'une part, il va croiser différents papiers, il va interroger les gens et parfois il va aussi laisser passer un peu la subjectivité des chercheurs et ça va donner un éclairage que ne vous donnera jamais un papier d'un spécialiste. Et déjà la première chose que je voulais souligner. Mais après j'ai une question assez très particulière à poser, c'est aussi bien dans le papier que là en discutant avec vous, Nathaniel n'a pas du tout parlé la question des plastiques. Est-ce que ça pourrait intervenir le fait que les océans sont gorgés de plastique sous des formes de microparticules et le propre des baleines, ben c'est d'ingérer tout ça quand même.
Alors, il semble que là, en l'occurrence, quand ils ont dans les autopsies qu'ils sont parvenus à réaliser, il n'y avait pas, ils n'ont pas retrouvé une quantité importante de plastique. Ils en ont retrouvé, je crois, sur quelques spécimens, mais dans la plupart des cas où ils ont pu réaliser l'autopsie jusqu'au bout, c'est très compliqué. Hein. C'est pour ça que je suis prudent, comme eux le sont. Ils n'ont pas retrouvé une masse de particules de plastique. Mais
de plastique.
Voilà.
Intéressant, oui. Merci beaucoup.
Merci Dominique Bourg. On vous retrouve donc tout à l'heure après le journal à 8h15, pardon. Dernière question pour vous, Nathaniel Heisberg. Quand même, la baleine, on sait, c'est un mammifère marin qui est particulièrement attachant, qu'on aime, qui est plein de références dans notre imaginaire, en particulier des références littéraires. Est-ce que vous auriez fait la même chose, la même enquête, je sais pas, sur la disparition d'une espèce d'araignée ou de scorpion, ou même, tiens, puisqu'on parlait de cette enquête, cette étude du WWF qui est apparue cette semaine, sur la disparition du renard volant qui a été décimé par les canicules à répétition en Australie. Alors vous allez me répondre sans doute, ben, ça dépend s'il y a une enquête à faire ou pas, mais quand même, cette différence entre un animal attachant et un animal, disons, plus repoussant pour l'homme. Est-ce que ça fait pas un sujet plus qu'un autre dans une enquête du monde ?
Enfin, dans une enquête du monde, je peux pas vous dire. Pour moi, pas du tout. Je suis très heureux d'avoir fait cette enquête et bien évidemment, le fait d'avoir vu pour la première fois de ma vie des baleines en vrai, c'est quelque chose d'important. Et donc, je suis très heureux d'avoir fait cette enquête. Mais certains de mes collègues se moquent presque de moi en me disant « Mais qu'est-ce que tu fais à faire 3 pages sur les chauves-souris ?» Maintenant, tout le monde parle des chauves-souris, mais moi, il se trouve que je m'y intéressais déjà. Ou, vous parlez des araignées, oui, je travaillais sur les araignées qui... Il se trouve que moi, je les trouve pas repoussantes. Je les trouve plutôt belles. Mais je pense que j'ai aucun doute que s'il y a un sujet riche, une histoire à raconter, finalement, je peux le faire aussi bien que sur des baleines.
Les baleines grises, victimes du climat, point d'interrogation, c'est votre enquête. À lire donc dans le supplément Sciences et Médecine du 16 septembre sur Le Monde et donc sur lemonde.fr désormais. Merci beaucoup Nathaniel Heisberg d'être venu ce matin.
Merci Caroline Prouvé.